La grande figure de pierre. Nathaniel Hawthorne. Un jour, que le soleil à son déclin dardait obliquement ses derniers rayons, une mère et son jeune fils, assis à la porte de leur chaumière, parlaient de la grande figure de pierre. Bien qu'éloignée de plusieurs milles, on la voyait chaudement éclairée, se détacher, resplendissante, sur la teinte plus sombre des rochers environnants. Qu'était-ce que la grande figure de pierre? Il y avait autrefois, entre deux hautes chaînes de montagnes, une spacieuse vallée peuplée de quelques milliers d'habitants. Les uns vivaient dans de pauvres huttes situées au milieu des forêts silencieuses et sombres qui couvraient les versants abrupts de la montagne. D'autres en habitaient les premières croupes et le fond de la vallée, dont ils cultivaient le sol plantureux. Il y en avait, enfin, qui s'étaient groupés en populeux villages, sur le cours impétueux d'une petite rivière qui, sortie des cimes neigeuses de la montagne et domptée par l'intelligente volonté de l'homme, rongeant son frein blanc d'écume, faisait humblement tourner les machines de plusieurs filatures. Tous ces braves gens, bûcherons, cultivateurs, ouvriers, vivaient dans une respectueuse familiarité avec la grande figure de pierre. Le palladium de la vallée était une de ces œuvres qu'en un jour de majestueux enjouement, la nature se plaît à créer. Quelques rochers, en apparence jetés au hasard sur un versant presque perpendiculaire de la montagne, prenaient à une certaine distance l'aspect d'un profil humain. On eût dit la figure d'un titan suspendu sur l'abîme. On voyait distinctement son front colossal, élevé de 100 pieds, l'immense courbure de son nez, et ses lèvres formidables, qui, douées de la parole, eussent couvert les roulements du tonnerre. Si l'on approchait, la figure s'évanouissait, et l'on n'apercevait plus qu'un entassement de rochers monstrueux dignes de l'antique chaos. Mais, en s'éloignant de nouveau, l'on voyait reparaître la merveilleuse figure qui semblait sortir vivante de son cadre vaporeux. Selon la croyance populaire, c'était pour les enfants un heureux présage de grandir en contemplant la grande figure. La noblesse de ses traits et leur expression de majestueuse douceur semblait le reflet d'un cœur chaud et généreux, embrassant dans un vaste amour l'humanité tout entière. La regarder était tout un enseignement. On croyait généralement que la vallée lui était redevable de sa fertilité, son regard bienveillant dissipant les nuées et versant sur elle, avec les rayons du soleil, de bienfaisants effluves. Au moment donc où commence ce récit, une mère et son jeune garçon, assis à la porte de leur chaumière, s'entretenaient, en la regardant, de la grande figure de pierre. L'enfant s'appelait Ernest. « Mère !» disait-il, pendant que le gigantesque visage du titan semblait lui sourire. « Je voudrais l'entendre parler. » Avec un regard si doux, sa voix doit être harmonieuse. Il me semble que si je voyais un homme qui lui ressemblât, je ne pourrais m'empêcher de l'aimer. Si la vieille prophétie doit un jour se réaliser, c'est un bonheur dont vous jouirez, mon fils. « Quelle prophétie, chère maman ? » demanda curieusement Ernest. « Dites-la-moi, je vous prie. » Alors la mère lui raconta cette légende qu'elle tenait de sa mère à elle, récit non d'un fait accompli, mais d'un fait à venir, et néanmoins si vieille que les Indiens, premiers habitants de la contrée, avaient entendu dire à leurs grands-parents que jadis leurs ancêtres l'avaient apprise par le murmure des ruisseaux et les soupirs du vent à travers le feuillage. Un enfant devait naître dans ces parages dont la physionomie reproduirait les traits de la grande figure, et qui serait le plus grand, le plus noble et le plus vertueux de son époque. Les vieillards, comme les jeunes gens, avaient toujours une foi aussi vive dans cette vieille prophétie. D'autres, cependant, connaissant mieux le monde, s'étaient lassés d'attendre inutilement un homme qui, possesseur d'une telle physionomie, fût plus grand et meilleur que ses concitoyens, et en avait conclu que la légende n'était en réalité qu'un conte à dormir debout. Toujours est-il que le grand homme n'avait point encore fait son apparition. « Ô mère !» fit Ernest en joignant les mains. « Je puis donc espérer de le voir un jour ?» La mère, en femme tendre et avisée, comprit qu'il était plus sage de ne pas décourager le généreux espoir de l'enfant. Aussi se contenta-t-elle d'ajouter « Peut-être le verrez-vous, qui sait ?» Ernest n'oublia jamais l'histoire que sa mère lui avait racontée, et elle lui revenait à l'esprit toutes les fois qu'il regardait la grande figure de pierre. Son enfance s'écoula paisible dans la petite cabane où il était né. Il était soumis à sa mère, l'assistait de ses petites mains, et plus encore, de son cœur aimant et tendre. D'enfant heureux, quoique souvent pensif, il devint un sage garçon, doux, tranquille et discret. Son visage était bruni par les travaux des champs, mais son œil brillait d'un feu plus intelligent que celui des enfants de son âge, élevés dans les plus fameuses universités. Cependant, Ernest n'avait d'autre maître que la grande figure de pierre. Quand il avait fini son pénible labeur, il se plaisait à la considérer des heures entières, et, dans son extase, il s'imaginait qu'elle répondait par un sourire d'encouragement au regard respectueux qu'il jetait sur elle. Se trompait-il, ou la grande figure le regardait-elle avec une prédilection réellement marquée? Nous croirions volontiers que le jeune garçon savait y trouver ce que d'autres cherchaient en vain, et qu'ainsi cette bienveillance destinée à tous était réservée pour lui seul. Vers ce temps, le bruit courut dans la vallée que le grand homme, annoncé depuis tant d'années, et qui devait ressembler à la grande figure, allait faire enfin son apparition. On racontait qu'un jeune homme, ayant depuis longtemps émigré de la vallée, s'était fixé dans un port lointain où, après avoir ramassé quelque argent, il s'était fait marchand. Son nom, je n'ai jamais pu savoir si c'était son véritable nom ou bien un sobriquet. Son nom était Amador. Adroit, actif comme il l'était, heureux en affaires, il devint excessivement riche et propriétaire d'une flotte de navires. Toutes les contrées du globe semblaient travailler à l'envi dans le but d'accroître ses richesses, déjà considérables. Les régions arctiques, ténébreux domaines des glaces éternelles, lui envoyaient leur fourrure en tribut. La brûlante Éthiopie tamisait pour lui le sable d'or de ses rivières et ramassait dans ses forêts équatoriales les défenses des éléphants pour lui fournir de l'ivoire. L'Extrême-Orient recueillait à son intention le thé, les épices, les châles du Tibet, les diamants de Golconde et les perles de l'Inde à la teinte nacrée. Enfin, pour n'être point en reste avec la terre ferme, l'océan lui livrait ses puissantes baleines, dont l'huile n'était pas le moindre de ses profits. D'où que vinssent ces marchandises, Monsieur Amador, les avaient bientôt convertis en ce métal dont il portait le nom. On pouvait dire de lui, comme du Midas de la fable, que tout ce qu'il touchait devenait or, mais or monnayé. Et quand M. Amador fut devenu si riche qu'un siècle lui aurait à peine suffi pour compter sa fortune, il se souvint de sa vallée natale et résolut d'aller finir sa vie où il l'avait commencée. Dans cette intention, il envoya un habile architecte pour y élever un palais digne d'abriter le possesseur d'une si grande fortune. Ainsi que je l'ai dit plus haut, le bruit avait couru dans la vallée que ce monsieur Amador, qui allait revenir, était le personnage prophétique si longtemps et si impatiemment attendu, et dont la ressemblance avec la grande figure de pierre devait être si parfaite. Cette opinion s'accrut encore lorsque l'on vit s'élever, comme par enchantement, un splendide édifice sur l'ancien emplacement, depuis longtemps dévasté, de la ferme de son père. Ce palais, du marbre le plus blanc, surpassait en éclat les constructions de neige auxquelles, dans son enfance, M. Amador ne dédaignait pas de travailler de ses propres mains, et qu'un rayon de soleil suffisait à fondre. Le portique, richement orné de magnifiques sculptures, était soutenu par de majestueuses colonnes et encadrait une large porte garnie de clous d'argent et faite d'un bois précieux, venu de par-delà les mers. Les fenêtres étaient closes par des glaces sans teint, d'une dimension extraordinaire et d'une si grande pureté qu'elle égalait, si elle ne la surpassait, la transparence de l'atmosphère. Personne, à la vérité, n'avait été admis à voir l'intérieur de l'édifice. Cependant, on prétendait qu'il était encore plus somptueux que l'extérieur, d'autant plus que le fer et le cuivre, ordinairement employés dans les demeures les plus luxueuses, étaient ici remplacés par des métaux précieux. La chambre à coucher de M. Amador était surtout si éblouissante, si étincelante, qu'un homme ordinaire n'eût pu s'y endormir. Mais son propriétaire était tellement habitué à la vue de l'or que peut-être ne pouvait-il plus fermer les yeux sans s'être rassasié de ses lueurs rutilantes. Au terme fixé, la nouvelle demeure fut achevée. Ce fut alors le tour des tapissiers qui apportèrent les plus riches teintures, puis une armée de serviteurs noirs et blancs venus en éclaireurs et qui annoncèrent la glorieuse arrivée de M. Amador pour le coucher du soleil. Cependant, notre jeune ami se sentait profondément ému en pensant que le grand homme, l'homme vertueux, l'homme de la prophétie, allait se manifester à sa vallée natale. Tout jeune qu'il était, Ernest savait que, possesseur d'une si grande fortune, M. Amador pouvait devenir, pour ses compatriotes, une providence aussi bienfaisante que le doux sourire de la grande figure de pierre. Rempli d'espérance et de foi, il ne douta pas un instant que ce que l'on disait ne fût vrai et qu'il ne dût bientôt contempler la vivante image des traits augustes de la montagne. Bientôt, on entendit le roulement sourd d'un équipage qui s'approchait avec rapidité. « Le voici !» crièrent quelques personnes qui s'étaient rassemblées pour surveiller son arrivée. « Voici le grand Amador !» Une voiture traînée par 4 chevaux parut alors au tournant de la route. À la portière apparaissait la tête d'un petit vieillard dont le teint rappelait vaguement la couleur du métal dont il était si abondamment pourvu. On apercevait distinctement son front bas, étroit, ses yeux perçants et bridés, et ses lèvres fort minces, amincies encore par l'habitude qu'il avait de les serrer fortement l'une contre l'autre. « C'est l'exacte ressemblance de la grande figure !» cria-t-on de toutes parts. « Cela ne peut faire de doute. La prophétie est accomplie et nous possédons enfin le grand homme. » Ernest ne disait mot, mais il cherchait en vain cette frappante ressemblance. Le hasard fit qu'une pauvresse, accompagnée de deux petits enfants, venus sans doute de quelque lointain pays, erraient à quelques pas de là. Ils approchèrent au bruit de la voiture et tendirent instinctivement leurs mains amaigries, balbutiant quelques humbles prières. Une griffe jaunâtre, celle-là même qui avait agrippé tant de richesses, sortit de la fenêtre du carrosse et laissa négligemment tomber à terre quelques pièces de cuivre.
C'est éparpilleur de cuivre qu'il fallait vous appeler, fastueux amador.
Et cependant, la foule transportée criait d'aussi bonne foi qu'auparavant.
Voici l'image de notre grande figure de pierre.
Mais Ernest détourna tristement ses regards de ce visage sordide, et ses yeux se portèrent lentement vers la vallée, où, parmi les brumes dorées par le soleil, il pouvait encore distinguer l'admirable profil dont l'aspect seul le consola. Que lui disait cette bouche au bienveillant sourire ? Espère, enfant, garde ta foi, l'homme viendra. Les années s'écoulèrent. Ernest entra dans l'adolescence. Le jeune homme n'attirait guère l'attention des habitants de la vallée, car sa vie régulière et simple n'avait rien de remarquable, si ce n'est peut-être que, son travail terminé, il avait conservé l'habitude d'aller chaque jour contempler la grande figure. C'était, pour la plupart, une innocente manie qu'on lui pardonnait, d'autant plus volontiers qu'il était industrieux, serviable, d'un caractère toujours égal, et qu'en somme il ne se livrait à cette paresseuse contemplation qu'après s'être acquitté de tous ses devoirs. Il ne savait pas, ceux qui pensaient ainsi, que la grande figure était devenue pour lui le meilleur des maîtres, et que les sentiments qu'elle exprimait, après avoir élargi son cœur, l'avaient rempli d'une bienveillante sympathie pour les autres cœurs. Il ne savait pas que de ces muettes leçons sortirait une plus haute sagesse que celle que renferment les livres, et une vie qui, pour n'être point modelée sur les convenances humaines, n'en serait pas moins de toutes la meilleure. Il ne savait pas enfin, et le jeune homme l'ignorait lui-même, que ses pensées, qui germaient seules dans son cerveau, soit durant son travail, soit le soir, lorsqu'il prenait place au foyer, étaient plus nobles et plus élevées que toutes celles qu'il pouvait échanger entre eux. Son âme était simple, naïve, comme au jour où sa mère lui raconta la vieille prophétie. Il regardait toujours la merveilleuse figure et s'étonnait ingénument que son pendant humain se fit longtemps attendre. Durant ce temps, le pauvre monsieur Amador était passé de ce monde dans l'autre, et sa dépouille mortelle avait été rendue à la terre. Mais le plus bizarre, c'est qu'avant de mourir, il avait perdu sa fortune, et qu'une fois son or disparu, on s'était généralement accordé pour reconnaître qu'en réalité, la ressemblance qu'il pouvait y avoir entre les ignobles traits d'un trafiquant ruiné et ceux de la grande figure n'était pas des plus frappantes. On oublia jusqu'au nom de monsieur Amador, et son palais devint un hôtel pour les étrangers. L'homme de la prophétie était encore à venir. Or, il arriva qu'un fils de la vallée, parti comme simple soldat depuis un certain nombre d'années, parvint, après force combats meurtriers, au grade le plus élevé. Quel que soit le nom que lui donne l'histoire, il était plus connu dans les camps sous celui de Sang et Tonnerre. Ce vétéran, usé par les rudes travaux de la guerre, vieux, couvert de blessures, rassasié de la vie militaire, fatigué des roulements du tambour et des sons aigus du clairon qui pendant si longtemps avait retenti à ses oreilles, résolut un beau jour de retourner dans sa vallée natale, espérant y retrouver le calme et le repos qu'il y avait laissé. Les habitants, ses anciens voisins, ses parents, ses amis, résolurent de célébrer le retour du vieux héros par des salves d'artillerie et un banquet public. Tous affirmaient se rappeler qu'il était le vivant portrait de la grande figure. Un des aides de camp de Sang et Tonnerre avait même été frappé de cette ressemblance et ses amis d'enfance étaient prêts à affirmer par serment qu'elle avait toujours existé, seulement qu'ils ne l'avaient jamais remarquée jusque-là. Aussi grande fut l'exaltation des bons habitants de la ville qui perdaient les trois quarts de leur journée à considérer la grande figure de pierre, rien que pour se faire une idée de l'air que devait avoir le brave Sang et Tonnerre. Le jour du grand festival, Ernest, ainsi que les autres habitants, laissa son ouvrage et se dirigea vers l'endroit où le banquet champêtre était préparé. Il entendit, en s'approchant, la voix retentissante du révérend docteur Battle, appelant les bénédictions du ciel sur les excellentes choses placées devant lui et sur l'homme illustre en l'honneur de qui elles avaient été préparées. La table avait été mise dans une clairière entourée d'arbres de tous côtés, sauf à l'est, où par une éclaircie l'on apercevait au loin la grande figure. Le fauteuil du général, relique de la maison de Washington, était ombragé par un dôme de verdure entremêlé de branches de laurier, au-dessus duquel flottait le drapeau national, par lui tant de fois conduit à la victoire. Ernest se leva sur la pointe de ses pieds dans l'espoir de contempler un instant l'hôte illustre. Mais une foule tellement compacte entourait les tables, dans l'espoir d'entendre les toasts, et les miliciens repoussaient si impitoyablement les importuns, avec la crosse de leurs fusils, que le jeune homme, assez timide de sa nature, ne put apercevoir les traits de Sang et Tonnerre. Pour se consoler, il se retourna vers sa chère figure, qui lui souriait comme à l'ordinaire. Cependant, au milieu du choc des verres et du cliquetis de la vaisselle, il entendait des voix comparant la figure du héros à celle de la montagne. « C'est la même tête, à un cheveu près !» disait l'un. « Absolument exact !» disait un autre. « Il est de fait, » ajoutait un troisième, « qu'il me semble voir Sang et Tonnerre à travers un verre grossissant. »« Pourquoi non ? N'est-ce pas, au bout du compte, le plus grand homme de notre siècle ?» Et les trois interlocuteurs poussèrent un hurrah qui, répété par les mille voix de la foule et répercuté par les montagnes environnantes, semblait un cri proféré par la voix puissante de la grande figure elle-même. Cet enthousiasme bruyant intéressait au plus haut point notre ami, qui n'osait plus mettre en doute que son majestueux instituteur n'eût enfin trouvé sa contrepartie humaine. Ernest s'était imaginé, il est vrai, que ce personnage, depuis si longtemps attendu, paraîtrait sous un aspect plus pacifique, sous celui d'un sage et d'un paisible bienfaiteur de l'humanité. Mais, dans sa naïve simplicité, il se persuadait que la Providence avait pu choisir, pour accomplir son œuvre bienveillante, un instrument à sa guise, et s'éloignant du type qu'il avait rêvé. Silence ! Cria-t-on. Silence ! Le général va parler ! En effet, après divers toasts portés à sa santé au milieu des cris et des applaudissements, Sang et Tonnerre s'était levé pour exprimer à ses concitoyens toute sa gratitude. Ernest put voir alors le vieux héros, avec ses brillantes épaulettes et son hausse-col brodé d'or, dominant la foule de sa tête altière, qu'ombrageaient les lauriers et sur laquelle se balançait la bannière compagne de ses exploits. Mais il pouvait du même coup d'œil apercevoir la grande figure de pierre. Était-ce bien là cette ressemblance tant vantée? Hélas, il ne la pouvait découvrir. Il voyait, il est vrai, un visage usé par les fatigues de la guerre, battu par les orages de la vie, empreint d'une vaillante énergie et des traits caractéristiques d'une inébranlable volonté. Mais il n'y voyait point briller cette auguste sagesse, cette tendre et profonde sympathie dont il connaissait l'admirable expression.
Non, dit-il, en se frayant d'un passage à travers la foule. Non, ce n'est pas encore l'homme de la prophétie. Il faut attendre.
Des nuées vaporeuses avaient, pendant ce temps, environné la montagne d'où l'on voyait surgir l'imposante figure, semblable à un ange puissant, revêtu de pourpre et d'or. En la considérant, Ernest crut voir rayonner un sourire bienveillant et silencieux sur sa face lumineuse. Peut-être n'était-ce qu'une illusion produite par les rayons du soleil couchant, qui se jouaient dans les zones de vapeurs interposées entre ses yeux et la montagne. Néanmoins, l'aspect de son merveilleux ami rendit au jeune homme toute sa confiance et tout son espoir.
Confiance, lui disait une voix secrète, interprétant le sourire de l'oracle. Confiance, il viendra.
Des années s'écoulèrent encore avec plus de rapidité, mais au milieu du même calme. Ernest, paisible habitant de sa vallée natale, était un homme dans la force de l'âge, et peu à peu le peuple avait appris à le connaître. Il travaillait toujours pour gagner son pain quotidien, et son cœur était aussi simple qu'autrefois, mais il pensait beaucoup. Et les meilleurs instants de sa vie avaient été consacrés à des rêveries idéales dont l'unique sujet était le bonheur de l'espèce humaine. Sa vie s'écoulait sereine et calme, comme un fleuve tranquille, roulant ses flots limpides au milieu d'une éternelle verdure. Il semblait que le monde devint meilleur rien qu'à voir vivre cet homme simple et bon. Sans se détourner de sa route, il était aux autres un perpétuel enseignement. Et, sans en avoir conscience, il prêchait à tous la sagesse et la vertu. Ses pensées, à la fois simples et pures, se manifestaient par de bonnes actions, faites modestement, mais dont le bruit se répandait insensiblement dans la vallée. Lorsque, par hasard, il prenait la parole, c'était pour laisser tomber quelques vérités qui, germant un jour ou l'autre dans l'esprit de ses auditeurs, avaient souvent, sur leur manière de vivre, une influence dont ils ne se rendaient pas compte eux-mêmes, ne voyant dans Ernest qu'un de leurs voisins, un homme comme tant d'autres. Lui-même ne se doutait pas de la portée de ses discours, et naturellement, comme le ruisseau murmure, sa bouche laissait échapper de sublimes pensées que jamais lèvres humaines n'avaient prononcées avant lui. Cependant, la première effervescence passée, le peuple s'aperçut qu'il avait été un peu prompt à trouver une ressemblance entre le visage farouche du vieux sang et tonnerre et la grande figure. Cela n'empêcha pas qu'au bout de quelque temps, les journaux ne commençassent à répéter les uns après les autres que la tête tant désirée se trouvait sur les épaules d'un certain homme d'État, non moins illustre que M. Amador et le général Sang et Tonnerre. C'était également un fils de la vallée, mais il l'avait quitté très jeune pour s'adonner à la jurisprudence et à la politique. Il n'avait ni la fortune d'un archimillionnaire, ni l'épée d'un vaillant guerrier, mais il possédait une éloquence plus puissante à elle seule que toutes deux ensemble. Quand il parlait, il n'y avait pas à balancer, il fallait le croire. Les droits semblaient des torts et les torts semblaient des droits, selon ce qui lui plaisait de persuader. Et il possédait à un si haut point l'art d'éblouir qu'il eût pu à son gré faire voir des étoiles en plein midi. Sa voix était vraiment son instrument magique, tantôt résonnant comme un tambour, tantôt mélodieuse comme une harpe éolienne. Il chantait à volonté les fastes de Bellone ou l'hymne de la paix. En vérité, c'était un homme merveilleux, et lorsque cette rare éloquence lui eut acquis tout le succès imaginable, lorsqu'il se fut fait entendre dans toutes les cours de l'Europe, après que son nom eût été prononcé d'un bout à l'autre du monde avec une égale admiration, il finit par persuader à ses compatriotes de le nommer président de la République.